Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
J'ai vu des bons vivants marcher dans les campagnes. J'ai vu de braves gens chanter pour leurs compagnes.
Les bons vivants, oui, les bons vivants. Écoutez, nous, évidemment, qui n'aime pas les bons vivants, hein, qui n'est pas pour la vie. Eh bien, on va parler de ce qui se passe actuellement du côté du collectif Environnement Champenois. Et on va parler, on va commencer à parler, ils sont trois, Marc Collard, Stéphane Dubois, Xavier Letchimy. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, Marc Collard, vous êtes agriculteur, vous êtes un jeune agriculteur et vous êtes président de l'association Non aux éoliennes à Courtiou. Pourquoi non aux éoliennes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, parce que j'ai appris il y a quelques mois que du coup un projet éolien allait être accepté proche de la commune.
Et du coup, Courtiou, rappelez-nous où est Courtiou exactement.
Donc, ça se situe dans l'Aube.
Dans l'Aube,
proche
d'accord.
De Nogent-sur-Seine, limite Seine-et-Marne.
D'accord.
Et du coup, c'était un projet qui a été très peu médiatisé par les élus. Et du coup, j'ai
projet de combien d'éoliennes?
De 7 éoliennes.
7 éoliennes.
7 éoliennes à proximité des habitations, donc à 7-800.
Approchez-vous du micro.
Donc voilà. À 7-800 mètres des habitations, donc ça reste quand même très proche. Et puis 7 éoliennes d'un coup, alors qu'on en a déjà, on en voit déjà au loin et sont déjà présentes dans le paysage.
Et tout près des, enfin pas très loin des maisons,
voilà,
pas
c'est très, ça,
loin
très, oui. Très près des maisons. Et quand en faisant un peu le tour des habitants pour aussi comprendre si les gens aussi étaient informés, bah souvent c'est les personnes les plus proches du projet qui ne sont pas informées. Et qui prennent ça un peu...
Projet qui existe depuis quand, d'après ce que
projet qui a été lancé en 2014.
D'accord.
Donc on bah, voit un ans, peu ouais. des affiches un peu par quelques fois, mais quand on discute avec les gens, ils pensent que bah, depuis ce temps-là, en fait, le projet est abandonné. Sauf qu'en fait, il est bien en cours, et c'est en cours un peu d'analyse de l'environnement.
Et c'est prévu pour quand, en principe? Enfin, l'installation des éoliennes
bah, l'installation, ce serait prévu si, du coup, tout se déroule dans leurs intérêts d'ici 3 ou 4 ans.
D'accord. Alors, vous avez contacté, effectivement, vous avez pris conscience avec un certain nombre de gens, et vous êtes pas... Pourquoi vous êtes contre?
Alors, moi, je suis contre parce que, bah, déjà, en tant qu'agriculteur, on essaie de nourrir un maximum la planète, vu que c'est aussi la problématique. Et du coup, on essaie de préserver nos surfaces pour produire un grand nombre, puisque c'est ça aussi ce que les personnes veulent. Et du coup, réduire aussi cette surface-là pour produire de l'énergie qui, à mon sens, n'est pas forcément si verte qu'on peut le penser. Bah, c'est un petit peu une erreur, quoi.
Alors, vous avez contacté, donc, effectivement, le collectif Environnement Champenois, qui était évidemment près de chez vous. Le collectif Environnement Champenois, vous êtes président Stéphane Dubois, c'est ça?
Absolument.
Vous êtes consultant informatique. Vous regroupez, si j'ai bien compris, 20 associations de protection de l'environnement.
Tout à fait. Aujourd'hui, ouais, on rassemble 20 associations, donc, de la Marne et de l'Aube, des associations de protection de l'environnement, qui ont effectivement un regard critique sur cette industrialisation qu'on constate sur notre territoire. Et donc, on vient aider à informer le plus honnêtement possible, le plus exhaustivement possible, les habitants sur le sujet des énergies renouvelables intermittentes, en particulier éolien et photovoltaïque, qui, dans notre secteur, Xavier vous en parlera aussi, c'est absolument anarchique. Et même, on pourrait dire, outrancier, à tel point des densités d'éoliennes. Là, je vous ai fait transmettre une carte. Dans un rayon de 30 km, il y a près de 600 éoliennes. C'est-à-dire qu'on a des paysages...
600 éoliennes ouais, dans un rayon de 30 km.
Avec encore des éoliennes en instruction, hein, donc c'est-à-dire des futurs projets qui sont en passe d'être construits. Faites un tour dans cette plaine, et puis on a la Somme. Les Hauts-de-France aussi sont ravagés. Aujourd'hui, ça va être tous les littoraux. Donc nous, on est très sensibles à notre cadre de vie, ce bien commun, qu'on essaie de préserver à tout prix, parce que les gens qui viennent à la campagne, je pense que c'est en particulier pour la quiétude, les paysages. Et aujourd'hui, on a des secteurs véritablement ravagés.
Alors justement, ces secteurs ravagés, on va en parler. Xavier Letchimy, vous êtes ancien chef d'entreprise, vous êtes porte-parole du collectif et de l'association Don Quichotte, pas par hasard, hein, les moulins à vent, on connaît ça depuis Cervantes. Et dites-moi, alors pourquoi, alors je vous entends, mais au fond, si je suis, vous dites, mais qu'est-ce que vous reprochez aux éoliennes? Je dis ça à tous les gens qui disent, oui, mais écoutez, c'est pas possible, les éoliennes, ça ne va pas. Bon, il y a effectivement, ça tue des oiseaux, etc. Mais on vous dit, mais attendez, au moins ça fournit l'électricité, au moins ce n'est pas polluant, etc. Qu'est-ce que vous dites à tous les gens qui disent, mais attendez, les éoliennes, c'est quand même très bien?
Alors déjà, ce serait très dur pour vous expliquer tout ça. Vous avez des scientifiques qui vous l'expliquent. Il y a eu des commissions d'enquête. Vous recevez Monsieur Boulet régulièrement. Pour notre partie à nous,
oui,
c'est vraiment ce qui est spécifique, c'est l'atteinte sur les paysages, dans un premier lieu. Mmh. Et aujourd'hui, quand vous avez des touristes qui viennent en Champagne et qui commencent à dire c'est beau les paysages champenois, mais c'est dommage les éoliennes, faut commencer à se poser des questions. Quand vous avez un rapport de l'UNESCO qui est accablant, et en particulier sur la région du Cézanais, il faut peut-être ouvrir les yeux et prendre des dispositions pour que ce massacre s'arrête.
Mmh. Mais alors, justement, que ce massacre s'arrête, vous dites donc, massacre environnemental, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que les paysages d'éoliennes, ça je dois dire, sont vraiment à porte, c'est pas Cézanne qui peindrait des éoliennes ou le grand peintre qui ont fait... Bon, mais quand on vous dit, en quoi je reviens là-dessus, mais même en parlant du Champenois, en parlant du Courtiou, en parlant de tout ça, vous dites, oui d'accord, mais écoutez, ça va vous apporter électricité à bon marché, et que c'est bien pour l'économie, et que c'est bien pour l'économie, même des gens, des paysans, des citoyens qui vivent là. Vous leur dites quoi ?
Bah déjà, quand vous regardez la hausse des factures d'électricité, vous pouvez voir que c'est pas forcément une énergie qui est peu coûteuse, ou comme on nous l'a vendu à l'époque, l'énergie du vent et du soleil, qui était soi-disant une énergie gratuite. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte des coûts, qui sont plus qu'astronomiques, et on en voit les conséquences. Les fermetures des commerces, etc., etc., etc.
Alors justement, Marc Collard, vous avez parlé, vous dites oui, nous on est là pour nourrir aussi les gens et ça diminue le territoire, ça diminue en face de notre territoire. Mais est-ce que vous, très sincèrement, là, dans votre village et un peu partout, est-ce que les gens vous disent pas, écoutez, bon, c'est bien gentil tout ça, on comprend, oui, on dit pas que c'est très très beau, mais en même temps, regardez, on nous donne beaucoup d'argent pour effectivement pour installer ça nourrit la commune, ça apporte les compagnies nous subventionnent ou en tout cas nous nourrissent entre guillemets, et les gens autour de vous, est-ce qu'ils sont conscients de ça, ils vous disent quoi?
Bah autour de moi ils me disent surtout qu'en fait restent quand même un avis négatif sur ce projet là parce qu'ils estiment que bon, il y a pas de plus-value non plus pour la région à part donc les subventions données pour la commune et pour les propriétaires fonciers, mais en soi, il y a pas de création d'emplois puisque les éoliennes viennent de l'étranger,
Chine surtout,
voilà,
oui,
donc le porteur projet là dans ce cas précis, il est alsacien. Donc il y a pas non plus trop de valeur pour le territoire. Mmh. Et puis eux, c'est surtout aussi la problématique environnementale et aussi la problématique de santé. Puisque voilà, selon la sensibilité des personnes, il y a aussi certains qui peuvent avoir des problèmes avec la proximité des éoliennes.
Alors justement, Stéphane Dubois, vous regroupez une vingtaine d'associations. C'est quoi, vous, quand on vous dit oui, d'accord, mais écoutez, économiquement, c'est intéressant. On vous dit aussi, effectivement, et personne ne parle de l'intermittence du spectacle, parce que quand il n'y a pas de vent, hein, qu'est-ce qu'on fait ? Et quand il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qu'on fait, etc. Qu'est-ce qu'on dit autour de vous ? Est-ce que vous arrivez à convaincre les gens et comment ça se passe ?
Aujourd'hui, on a pu le constater, vous recevez, comme vous disiez, régulièrement Fabien Bouglet, et aujourd'hui, c'est de notoriété quand même, il y a eu une prise de conscience sur ces dernières années, hein, sur ces énergies renouvelables intermittentes, qui posent un gros problème sur notre réseau électrique, qui nous coûte un bras en termes d'interconnexion et de frais sur notre réseau, qui pose des problèmes aussi à notre énergie nucléaire. Donc en fait, c'est effectivement cette manne qui vient sur les communes, sur les collectivités et sur les propriétaires. C'est à quel prix on est prêt à sacrifier en fait notre cadre de vie pour une énergie qui aujourd'hui, on le sait, vous avez vu les sénateurs, vous avez reçu Vincent Louault, il y a cette fameuse programmation pluriannuelle qui a même été dénoncée par l'Académie des sciences en disant cette copie donnée par le gouvernement est hors sol, hein, en termes de prévision de notre modèle énergétique sur les 10 prochaines années.
Oui. Et les pertes de milliards, de dizaines de milliards.
À l'heure où notre pays est surendetté, on cherche à faire des économies, on sait que ça nous coûte énormément. Voilà, nous on est pour un moratoire, littéralement, sur l'ensemble du territoire, pas que dans la Somme ou dans la Marne, non, qui sont pourtant les départements les plus ravagés. Vous voyez, là, ils veulent faire, je crois, je sais, l'éolien en mer, c'est sur le littoral, c'est 37 fois.
50 parcs.
Tout le littoral.
50 parcs, oui, en mer.
Tout le littoral sera ravagé. Quand les éoliennes sont à moins de 20 km, vous êtes sûr que vous les verrez. La nuit, n'en parlons pas, hein, dans notre secteur, c'est absolument hallucinant. Donc moi, je voudrais juste mettre le point aussi sur la schizophrénie de notre gouvernement qui a lancé une stratégie nationale sur la biodiversité. Madame Agnès Pannier-Runacher, on parle régulièrement. Préserver la vie, préserver les espaces naturels. Et ça va passer en incohérence avec nous, l'industrialisation, parce que c'est une industrialisation qu'on constate sur nos territoires absolument aberrante. Voilà.
Donc c'est une industrie qui crée ni emploi ni autre, parce que la France a été désindustrialisée d'un côté et on veut remplacer ça par les éoliennes, c'est ça.
Avec une énergie qui nous coûte très cher alors qu'on pourrait s'appuyer sur notre nucléaire, développer d'autres solutions aussi. On n'est pas que des anti-éoliens, on propose aussi des choses dans nos cahiers d'acteurs comme d'autres sources d'énergie, et on pourrait redonner une énergie compétitive, bon marché, pour justement réindustrialiser, faire des économies, que les Français payent moins cher leurs factures. Voilà, on a...
D'ailleurs, vous parliez d'argent. Oui. Excusez-moi de vous couper, mais vous parliez d'argent. Il arrive un moment, il faut savoir pourquoi on a mis des éoliennes. À la base, on a mis des énergies renouvelables, intermittentes, pour lutter contre le réchauffement climatique.
Pour décarboner.
Et en aucun cas pour faire de l'argent. Aujourd'hui, le seul argument pour implanter des éoliennes n'est plus que l'argent. Ça tue les oiseaux, donc on défend plus les éoliennes que les oiseaux. Ça massacre nos paysages. Et on laisse faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'immobilisme et dans l'inconscience le plus total. Vous avez des rapports qui sont accablants, en particulier des rapports de l'UNESCO. Il faudrait peut-être s'éveiller un petit peu, parce que ceux qui ont un intérêt à agir, le plus important, ne bougent absolument pas.
On va en parler justement après cette petite pause. On va essayer de voir s'il y a des solutions, et encore une fois, à votre niveau, et surtout de savoir si effectivement la plupart des gens, enfin autour de vous, ont pris conscience ou pas de ce qui se passe, et effectivement d'essayer de voir comment on peut avancer dans cette problématique. À tout de suite. En parlant d'un bouquin, tout de suite.
Dans tous ses états, le fait du jour.
Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain.
Très belle chanson, évidemment, d'Yvan Dautin. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. Mais l'emmener vers demain, bien sûr, fondamental, essentiel. Mais à travers quelle lecture? Et là, notamment, on va parler, donc, dans le cadre de ce programme. Alors, on va pas le détailler. On en a déjà parlé ici, vous le savez, dans l'émission. Et puis, on est tombé sur dans un collège, un livre qui est en circulation. Et une mère confisque un livre, que sa fille de 12 ans a emprunté. La mère est convoquée par la directrice et la cellule académique de laïcité. Son crime, eh bien, la mère a considéré ce livre comme inadapté et dangereux pour son enfant. Alors, ce livre, c'est quoi? Eh bien, ça s'intitule « Le livre le plus important du monde, corps, sentiments et sexualité » de Nathalie Simonson, mise à disposition des enfants de 9 ans à 13 ans. Manuel d'éducation à la vie affective et sexuelle pour les pré-ados, je rappelle, 9 à 13 ans. Bonjour Christelle Comé.
Bonjour André, bonjour à tous.
Alors Christelle Comé, vous êtes, je rappelle, je l'ai dit, vice-présidente de l'association Les Mamans Louvres, on vous a déjà reçu et toujours avec plaisir. Et je parle de ce bouquin parce qu'il faut tirer le fil de la pelote pour parler ensuite de la pelote tout entière. C'est quoi ce livre et qu'est-ce qui a attiré l'attention de cette mère, et qu'est-ce qui fait que, au fond, quelles limites on fait dans ces programmes d'éducation qui partent peut-être d'un bon sentiment, mais l'enfer est pavé apparemment de bonnes intentions?
Alors en fait, comme beaucoup de parents, cette maman nous a sollicité. Il faut savoir qu'on reçoit des dizaines de témoignages toutes les semaines de parents inquiets et de parents qui ont effectivement des problématiques rencontrées à travers ce qui circule ou ce qui est dit à l'intérieur de l'éducation nationale, et qui se voient confrontés à des menaces, clairement, lorsqu'ils remettent en question certains de ces éléments.
Ouais.
Donc, cette maman nous a fait part de ce livre intitulé « Le plus important du monde » que sa fille a ramené du CDI, donc sa fille qui a 12 ans et qui est en classe de 5e, et qu'elle a feuilleté et à juste titre s'en est retrouvée scandalisée, parce que effectivement ce sont des propos qu'on retrouve dans ce livre que je vous décrirai un peu plus tard,
oui,
qui sont absolument inadaptée, d'autant plus que on a une description pour un âge à partir de 9 ans, donc sur des adolescents qui sont prépubères. Donc ce qu'on a fait au-delà de cette alerte, c'est bien sûr, comme on le fait d'habitude, on a cherché les origines de ce livre, par qui il était promu, et est-ce qu'il était diffusé de manière plus étendue, ou est-ce qu'on était sur un cas à la marge, avec la sacro-liberté pédagogique appliquée également aux documentalistes du CDI. Et on s'est aperçu à travers un reportage de France 3 qui date de l'année dernière que ce livre est présenté en fait comme un ouvrage qui fait référence dans le Calvados, donc sur lequel s'appuient les enseignants, qui sert d'outil pédagogique, donc du collège notamment Charles Lettot, qu'on le voit dans le reportage, donc Charles Lettot de Bayeux, et qui dépend de l'Académie de Normandie. Donc pour aller plus loin, on s'est dit qu'on allait chercher les contributeurs de ce livre.
Donc attendez, Christelle Coëssi, j'ai bien compris, c'est un livre de référence qui est à l'usage des instituteurs ou des pédagogues ou des professeurs, c'est ça, qui peuvent s'en servir de façon tout à fait officielle.
Absolument, des professeurs en tout cas pour l'information que l'on a, donc d'accord, à partir du collège. Donc c'est un livre à la base qui est suédois, qui a été traduit et adapté donc pour la France par une sociologue et enseignante, Élise Deveil, qui est docteure en sociologie et autrice d'une thèse sur l'éducation à la sexualité. Elle est aussi conférencière et formatrice pour l'association Épicène. Et je pense que c'est important de regarder cela. C'est une association qui est féministe de Caen et qui travaille pour l'égalité de genre, contre le sexisme, l'homophobie et la transphobie, et qui forme en fait des professionnels de structures à la fois privées comme publiques.
Alors Christelle, on va juste prendre une petite pause et on va continuer à parler de l'origine de ce bouquin et de votre action. À tout de suite.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Et nous sommes toujours avec Christelle Comé, vice-présidente de l'association Maman Louve, et on parle de ce livre, et on parle de ce livre qui a provoqué quand même, pour ceux qui l'ont connu et qui l'ont regardé, pour les parents, et même pour les enfants, un certain nombre de réactions. Mais je voudrais, Christelle Comé, juste demander à Maud Koffler de donner quelques extraits, vous voyez, de ce livre. Voilà ce qu'on dit, je rappelle que ce livre s'adresse à des enfants de 9 à 13 ans. C'est intéressant quand même.
Ouais, c'est bien de le rappeler. J'espère qu'il n'y a pas d'oreilles trop pudiques qui écoutent cette émission, parce que ça risquerait de les chatouiller. Alors d'abord, il y a des définitions simples. On rappelle quand même que c'est pour des enfants à partir de 9 ans. La définition du sexe oral, du sexe anal, des sex toys, du coït, des préliminaires, par exemple. Alors je ne vous les donne pas. Hein, je pense que ceux qui nous écoutent savent à peu près de quoi on parle. Et puis, il y a le monde secret et imaginaire. Alors c'est un peu singulier. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Mais avec cet extrait que je vous lirai pas tout parce que c'est un peu gênant. Quand on a une vulve, la manière la plus classique de se masturber est de caresser ou de frotter son clitoris ou toute la zone autour, pardon, c'est l'émotion.
Voilà.
Non mais c'est hyper gênant. Mais en fait, non mais je peux pas m'empêcher de me mettre à la place des parents qui mettent leurs enfants à l'école et de ces enfants qui tombent sur ce genre de livre. Voilà, et on comprend mieux pourquoi cette maman dont parlera certainement Christelle a chopé ce livre et l'a confisqué du CDI où l'avait emprunté son enfant.
Oui, Christelle Comé, en fait, la question qu'on se pose, c'est vrai, quand on a regardé un tout petit peu un certain nombre d'extraits, on se dit, mais pourquoi? C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est absolument nécessaire de parler de ça à ce stade pour les 9-10 ans? On aimerait comprendre, quoi.
Alors, évidemment que non, et c'est toute la problématique, et c'est ce qu'on dénonce depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des gens qui, de la place où ils parlent, déjà ne sont pas légitimes à dire ce qui est adapté ou non. Là, on est donc face à une sociologue qui est, donc je le rappelle, issue d'une association féministe, donc qui est empreinte d'idéologie, et qui vient en fait nous raconter ce qui serait bien d'importer de la Suède pour venir parler en fait aux enfants. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle le revendique, parce que elle explique en fait que le manque d'outils pédagogiques crée et fait partie des barrières à l'éducation à la vie affective relationnelle, et c'est la raison pour laquelle elle a souhaité traduire ce livre et le faire rentrer en fait en France, parce qu'elle considère que ça peut être un exemple pour effectuer cette éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle. Je la cite, inclusive et critique des normes. Pour elle, en fait, ce livre, il est utilisable pour toute personne qui travaillent avec des pré-adolescents ou les fréquentent. Donc, alors que, je veux dire, elle a même été entendue par le CESE, donc qui est le Conseil économique, social et familial qui
et
a été
consulté
sur ces questions.
Oui,
environnemental, et pardon. Oui. Qui a été consulté sur ces questions, donc auditionné par la délégation des droits des femmes et à l'égalité, dans le cadre de cette saisine d'initiative par rapport à l'éducation, à la vie affective et sexuelle. Alors qu'on a d'éminents spécialistes qui crient au scandale depuis maintenant des années, ça se compte en dizaines d'années, oui. En expliquant qu'en fait on ne peut pas dire tout ce qu'on veut à des enfants parce que ce ne sont pas des adultes en miniature et que pour cela il y a des conséquences qui sont traumatiques.
Et comment il se fait alors comment il se fait à votre avis parce que l'éducation nationale c'est tout à l'appareil, c'est une pédagogie, c'est un rectorat, c'est des principaux, c'est des directions. Comment ça se fait que alors est-ce que c'est par cette loi Evars et ce qui l'a précédé, comment ça se fait que ce livre par exemple, et il y en a d'autres hein, on en a parlé, a trouvé son chemin jusqu'à l'école, jusque chez les mineurs et jusque les 9-13 ans.
Bien, c'est très simple. En fait, vous avez aujourd'hui un programme qui est censé fixer un cadre strict, mais il n'en est rien, puisque en fait, on vous donne des lignes directrices, censément avec, pour chaque âge, ce qui est adapté ou non au développement de l'enfant. Et ensuite, en fait, vous avez justement tous ces... kit, on va dire, ou en tout cas support que vous allez par vous-même trouver et puis utiliser au gré de ce que vous considérez comme bon
donc,
ou non.
Donc le cadre n'est pas strict du tout, je veux dire. Il y a une latitude très très large qui est laissée à chaque enseignant ou à chaque pédagogue.
Ben, si on y regarde de plus près, la question c'est est-ce que ce qui va être dispensé et utilisé dans le cadre de ces séances va être systématiquement contrôlé. La réalité c'est qu'en fait il faudrait des kits pédagogiques qui soient absolument stricts, proposés par des spécialistes du développement de l'enfant et pour avoir la garantie que tout ça soit adapté. Or aujourd'hui vous avez la liberté pédagogique qui vous permet d'utiliser ce que bon vous souhaite et c'est ce que fait l'Académie de Normandie avec ce fameux collège en tout cas qui se revendique chaque année commander cet ouvrage et qui sert en fait aux équipes enseignantes. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question de aujourd'hui qu'est-ce qui est considéré comme adapté ou non. Je vais quand même vous donner une information qui me semble indispensable à avoir en tête, c'est que parallèlement à ça, quand vous voyez ce qu'est la liberté pédagogique et que vous voyez que récemment, on a la directrice générale de l'enseignement d'accord, qui a envoyé un email à tous les professeurs enseignants au sujet donc du programme Evars qui interviendra à la rentrée, avec une FAQ dans laquelle vous retrouvez quand même des choses qui, moi, me semblent absolument scandaleuses, qui est faite donc censément pour pouvoir répondre aux nombreuses questions que suscite ce programme de la part des équipes éducatives. Et on voit que en fait, aucun document ne peut être accepté pour pouvoir déroger à cette obligation qu'est l'Evars. On reprend également des éléments sur la Convention européenne des droits de l'homme qui explique que cela ne garantit pas en fait aux parents le droit absolu d'assurer l'éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions et celui de laisser dans l'ignorance en matière de religion, de philosophie ou d'éducation sexuelle leurs convictions qui vont à l'encontre du droit fondamental de l'enfant. Et que par ailleurs, on vous explique que informer dans le but préventif et protecteur les élèves, alors il faudra expliquer en quoi là on est dans un registre préventif et protecteur, incomberait à l'État. Et pour finir, et c'est là où je trouve que c'est le plus scandaleux, c'est qu'il est écrit noir sur blanc que l'opposition aux séances d'éducation à la vie affective et relationnelle fait l'objet d'un signalement à l'inspecteur. D'accord. Systématiquement, quand un parent aujourd'hui s'oppose à ce qu'il considère comme délétère pour son enfant, il sera signalé. Donc, on est dans la politique du on va couper des têtes, on va faire des exemples pour que plus personne en fait ne remette en question. Mais in fine, qui est-ce qui trinque ? Ah bien, ce sont les enfants. À aucun moment, l'intérêt supérieur des enfants n'est une question centrale. En fait, on est dans un rapport de force.
Alors, Christelle Comé, justement, je voudrais savoir, vous dites, le parent peut signaler. Par exemple, cette mère qui a protesté sur le livre, donc justement à Bayeux, etc., amené par sa fille de 12 ans, dont vous venez de parler, dont on a parlé, quand on dit signaler, c'est-à-dire qu'elle peut être ce parent, cette mère, ce père ou cette mère, peuvent être poursuivis, peuvent être impliqués, enfin peut-être accusés, ou c'est simplement un signalement. C'est quoi en fait la réaction ?
Alors la réaction dans un premier temps de la part des chefs d'établissement, c'est de systématiquement en fait signaler le parent récalcitrant et contraire, dit contraire aux valeurs de la République auprès de la hiérarchie, donc c'est-à-dire auprès de l'inspection académique. Ensuite, s'ensuit l'évolution du dossier et que considéreront en fait ces membres de ces dites cellules de veille, personne ne le sait. Par contre, moi ce que je peux vous dire, André, c'est que on n'en est pas à notre premier cas de parents à traiter et qu'il y a déjà eu des parents qui ont fait l'objet de signalement au procureur de la République parce que s'opposant aux valeurs de la République dans ce cadre-là, dans le cadre de contestation de séances. C'est quand même des parents qui ont leurs enfants qui sont revenus traumatisés de séances d'éducation à la sexualité où on leur a parlé de comment on pouvait faire le sexe dans les fesses, qu'on pouvait bouber un pénis, etc. Et on ose quand même en fait aller jusqu'à inverser finalement cette culpabilité pour faire peur aux familles pour qu'elles se taisent définitivement. Voilà.
Ouais. En fait, ce qui est dit, c'est que les parents, vous n'avez pas à contrôler vos enfants. C'est pas vous qui avez à choisir ce que lisent vos enfants ou ce en quoi vos enfants soient, enfin, sur ce qu'on enseigne à vos enfants. Vous n'avez rien à dire là-dessus. Quelque part, c'est ça, en sous-jacence, en non-dit.
Mais c'est totalement le cas, puisqu'à partir du moment où en fait vous êtes menacé dès lors que vous contestez quelque chose, à part vous bâillonner, vous censurer, je vois pas ce que c'est d'autre. Par contre, quand même, votre journaliste a repris des extraits qui étaient choquants. Moi, je voudrais quand même remettre aussi un élément dans le contexte. Dans ce livre, à la page 179, on retrouve une phrase qui introduit après, comme l'a décrit votre journaliste, le sexe oral, anal, sextoys, etc. Il est noté noir sur blanc. On peut faire du sexe sans être côte à côte, par exemple en se parlant au téléphone ou en écrivant des choses excitantes par Internet. Mais pardon, mais ces gens sont dangereux. Sont dangereux parce que, je sais pas, est-ce qu'il faut leur rappeler que récemment, Véronique Béchu, qui est commandante de police et membre de la commission indépendante de l'inceste, donc de la Civise, qui prenait la parole récemment auprès de l'AFP, c'était le 7 avril, elle disait la chose suivante. Les experts estiment qu'à un instant T, il y a 2,6 millions de pédocriminels en ligne dans le monde. Les enfants peuvent être la cible d'un harcèlement, de menaces ou en échange de photos dénudées, d'argent ou de chantage à caractère sexuel. Donc expliquez-moi en quoi on fait de la prévention quand on va dire à des gamins qui ont 9 ans
aller sur Internet et aller parler de sexe sur Internet, c'est ça.
Non mais voilà, je veux dire, c'est monstrueux et c'est extrêmement grave, alors que parallèlement, vous voyez des campagnes vidéo, notamment sur TikTok, qui sont faites par la gendarmerie pour alerter, sensibiliser les parents et les jeunes utilisateurs des réseaux. Enfin, je veux dire, c'est complètement lunaire.
Oui, il y a quand même un problème, surtout que vous dites, c'est écrit noir sur blanc dans ce livre. C'est vrai qu'il faut savoir, il faudrait quand même avoir un peu des limites à l'irresponsabilité quand même. Et ça, c'est assez préoccupant, c'est le moins que l'on puisse dire. De toute façon, en septembre 2025, c'est à la rentrée prochaine, EVAR s'est mise en place. Et je pense que vous allez être très vigilante, comme vous l'êtes d'habitude, les mamans Louves et SOS Éducation et beaucoup d'autres sur ce sujet. Et nous, on va vous suivre là-dessus parce que, encore une fois, vive la liberté, mais vive la liberté, ça commence à quel âge et à quel âge on enregistre des choses et à quel âge il faut avoir la rigueur de son responsabilité et il faut avoir surtout la rigueur de la protection de l'enfance parce que ça, on sait, et vous l'avez dit, Christelle Chaumet, que c'est très, très, très grave avec ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup.
Sud Radio, André Bercoff. Bercoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Une danse, une chanson mahoraise, Mayotte. Effectivement, on s'est dit quoi ? Pays perdu, pays sacrifié, pays où effectivement le président de la République vient d'y aller. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, juste je fais une anecdote, mais on n'a pas tellement envie de rire. Grazia, le journal Grazia France, vient d'écrire un journal de mode, et bien dit ceci, le magazine Grazia. C'est une photo de Brigitte Macron en déplacement à Mayotte, et elle dit « Brigitte Macron éblouit Mayotte dans un tailleur chic et et élégant. Voilà, c'était le tweet de Grazia France. C'est pas mal, hein. Alain Détexte, bonjour.
Bonjour.
Bonjour docteur. J'ai reçu effectivement votre livre Mayotte en détresse qui vient de paraître aux éditions Texqui. C'est bien ça, Texqui.
Exact.
Et je dois dire que c'est vrai que bon, on n'a vraiment pas, même pas envie de ricaner après ça. Et vous racontez effectivement votre expérience médicale. Vous êtes médecin depuis des décennies, on peut dire. Vous le racontez d'ailleurs dans le livre. Vous commencez à vous présenter. Et vous avez passé un été, c'est bien ça, 3 mois à Mayotte en 2024, l'été 2024. Et puis vous dites, d'ailleurs je rappelle, vous avez travaillé pour Médecins Sans Frontières dans plusieurs pays d'Afrique et vous rendez plusieurs fois par an dans la région des Grands Lacs et d'où proviennent des milliers de migrants, on va en parler. Et depuis l'épidémie du Covid, vous travaillez régulièrement dans des hôpitaux en France et vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Et avant de renouer avec la médecine, vous avez une carrière politique en tant que sénateur en Belgique. Alors Mayotte, je voudrais savoir, le médecin que vous êtes, donc vous avez été confronté tout de suite à tout ce qui se passe à Mayotte, et vous racontez dans ce journal que je recommande, qui est passionnant parce que voilà, vous êtes au cœur de ce qui se passe, et je voudrais que vous nous racontiez justement comment, non seulement vous l'avez vécu, mais comment les problèmes de plein fouet dans ce pays de 400 000 habitants, dans ce département français, comment on le vit, comment on attrape on coche toutes les cases en 24 heures pratiquement.
Oui, c'est exactement ça, Monsieur Berkoff. C'est-à-dire qu'en fait, on est en France, puisqu'on est dans un département français, mais en réalité, on est davantage en Afrique, puisqu'on est confronté à des pathologies qu'on ne voit plus du tout en métropole. Et on voit arriver des gens en détresse depuis les Comores, qui sont abandonnés sur une plage, qu'on doit évacuer en hélicoptère souvent vers l'hôpital de Mamoudzou, et qui très souvent meurent dans les heures qui suivent parce qu'ils arrivent beaucoup trop tard. Ouais. Ou bien on voit arriver des femmes dont le travail est déclenché par le trajet en bateau entre les Comores et Mayotte et qui accouchent immédiatement. Et donc oui, on est davantage effectivement dans des situations que j'ai pu rencontrer au Congo ou au Rwanda dans les années 80 avec Médecins Sans Frontières que dans un département français.
Mais alors justement, vous avez travaillé au centre de santé de référence de Dzoumounié, hein, c'est bien ça,
qui
dessert tout le nord de l'île, 50 000 habitants et peut-être davantage. Et puis voilà, les cas graves doivent être transportés à Mamoudzou. Mais ce que vous dites, en fait, c'est intéressant. C'est quel cas, par exemple, les maladies, vous dites, on l'a plus dans la métropole, mais on a en Afrique. Quel cas de maladie vous avez rencontré, notamment?
Des méningites, une épidémie de choléra qui se terminait quand j'y étais, des problèmes de déshydratation, mais aussi des choses qu'on voit en France, mais de façon beaucoup plus gravement à Mayotte, par exemple des diabètes, où les personnes arrivent complètement déshydratées, en état de choc ouais. ou de coma, ce qui n'arrive plus en métropole quasiment, ou bien des hypertensions, ça parlera à vos auditeurs, avec des chiffres à 20, 22, 24 de tension, parce que les gens ne se font pas nécessairement soigner. Donc d'un point de vue médical, si vous voulez, c'est une situation assez catastrophique. On voit aussi des parents qui n'amènent pas leurs enfants pour des crises d'asthme. Il y a aussi une épidémie de drépanocytose, donc c'est une maladie oui. du sang qui n'existe quasiment plus en métropole, mais qui est liée à au mariage consanguin oui. et qui donne des douleurs chroniques extrêmement graves où les enfants meurent une fois qu'ils atteignent l'âge de 20 ou 30 ans. Donc on est davantage dans une médecine tropicale que oui. dans une médecine métropolitaine, si
et,
vous voulez.
Et vous rappelez d'ailleurs, docteur des textes, quelque chose d'important, c'est que l'immigration dont on parle beaucoup, elle n'est pas que des Comores, évidemment, elle arrive massivement des Comores, mais vous dites que ça arrive d'autres coins d'Afrique, et de plus en plus.
Non, l'immigration est vraiment la plaie de Mayotte, hein, parce que je pense que si on avait que les Mahorais, si vous voulez, là, on parlerait de 200, 150 à 200 000 personnes, et la France pourrait absorber et intégrer et amener ces personnes à peu près au même niveau de vie que la métropole. Mais en fait, comme la population est le double de ce ouais. qui est annoncé à cause de l'immigration, ça détruit tout, hein. Ça détruit l'habitat, ça détruit le système de santé qui est complètement complètement débordée. Du coup, les Mahorais n'ont plus du tout accès aux mêmes soins que les Français de métropole. Ouais. Les écoles sont dans un niveau catastrophique aussi, parce que théoriquement, tout le monde a le droit à l'enseignement. Donc, vous avez des enfants comoriens ou malgaches qui ne parlent pas le français, qui se retrouvent du jour au lendemain dans des classes de leur âge, de 14-15 ans, avec des enfants maorais. Et donc, ça tire le niveau par le bas. Et effectivement, cette immigration, qui au départ était des Comores et un peu de Madagascar, mais aujourd'hui, elle vient de toute l'Afrique. Rendez-vous compte, elle peut venir de Kinshasa, voire de Conakry, donc à plusieurs milliers de kilomètres de Mayotte, parce que c'est une route d'immigration plus facile que de traverser le Sahara et puis la Méditerranée.
Et c'est moins dangereux. Par l'Afrique. Ah oui, vous voulez dire qu'il y a une immigration aujourd'hui, et c'est vrai qu'on l'a signalé, quelques médias l'ont signalé, qui viennent justement du Congo, de Conakry, etc. Et ça passe par Mayotte, c'est ça?
Oui, c'est incroyable. À la limite, si vous voulez, c'est presque plus long, hein, de Conakry ou du Cameroun, par exemple, c'est plus long que d'arriver directement en Europe par le trajet le plus court. Mais d'abord, c'est moins dangereux, puisqu'en fait, en gros, contrairement à ce qu'on peut croire, il faut beaucoup d'argent pour arriver en Europe ou à Mayotte. Il faut au moins 3000 euros pour arriver de Kinshasa.
Il faut le rappeler, ça, c'est important, c'est le business. 3000 euros par personne, c'est ça.
Oui. 3000 euros par personne. Oui. Et en fait, c'est très facile. Donc, vous prenez un avion jusqu'en Tanzanie, puis vous prenez un bateau de Tanzanie aux Comores, et puis vous prenez les fameuses Kwasa Kwasa jusqu'à Mayotte. Et donc c'est en fait pas dangereux, contrairement à la traversée de la Méditerranée ou du Sahara qui l'est. Et vous arrivez à Mayotte, et là vous déposez une demande d'asile, et vous êtes pris en charge comme en France par des associations qui sont d'ailleurs très mal vues par les Mahorais. Mais... et puis vous attendez votre demande d'asile. L'immigration est véritablement beaucoup plus que le cyclone ou la pauvreté, le fléau de Mayotte. Et on ne peut pas dire que le président Macron ou le gouvernement français ait compris l'importance du problème.
Oui, il est. Je vais vous dire, là, il vient de rendre visite, hein, à Mayotte, il y a même pas, enfin, quelques jours, on est 4 heures. Vous dites. Oui. Pardon. Ce que je voulais vous dire, docteur des textes, en fait, l'insécurité, les conséquences aussi de cette immigration, absolument, aussi, parce qu'ils sont 400 000, 450 000 aujourd'hui à Mayotte, pratiquement.
Oui, on ne sait pas exactement le nombre, évidemment, mais à peu près, on peut dire qu'il y a 50% de la population qui est en situation illégale. C'est inédit, évidemment, hein, ça n'existe nulle part ailleurs.
50%, c'est énorme, dit Légout. Comme vous dites, même si c'est à l'échelle d'une île, mais c'est énorme. Et dites, quelles conséquences, alors, que vous avez pu voir sur l'insécurité, sur la violence, sur tout cela?
Donc les conséquences, c'est la destruction du système de santé, les écoles débordées et effectivement la violence, parce que la violence est surtout le fait de gangs de jeunes garçons, parce que quand les parents sont renvoyés aux Comores et ça arrive, en fait ils abandonnent les enfants sur place pour qu'un jour ils puissent devenir français. Ouais. Donc les plus jeunes sont pris en charge par des familles, mais ceux à partir de 10-12 ans, ils se retrouvent dans la rue et ce sont eux qui constituent l'essentiel des bandes de délinquants. Et comme ils sont mineurs, comme en métropole, l'État ne peut rien faire, en fait. Et donc, il ne peut pas les renvoyer aux Comores, et il ne peut pas non plus s'en occuper correctement vu le nombre. Et donc, il crée un climat d'insécurité généralisé dans toute l'île. J'ai aussi été en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, quand j'y étais, il y avait un couvre-feu officiel décrété par l'État. Mais à Mayotte, il y a un couvre-feu de fait qui n'est pas décrété par l'État, mais qui est de facto existant, parce que les gens n'osent plus sortir à partir du coucher du soleil à 7h du soir.
Ah oui, à ce point, vous voulez dire que les rues sont vides, effectivement, dès le soir, dès la tombée de la nuit, le désert.
Exactement. Alors, pas les rues à Mamoudzou, le chef-lieu, mais toute la circulation entre les différentes localités de l'île. Il n'y a plus une voiture qui circule à partir de 7h du soir.
Ouais. Et c'est assez terrifiant quand on se dit, c'est quand même la France, c'est un département français, et on a l'impression, ça fait des mois qu'on entend à l'Assemblée et ailleurs les députés de Mayotte parler, etc., mais on a l'impression que c'est presque, je ne dirais pas un dialogue de sourds, mais c'est très loin, alors on va s'en occuper, on y va de temps en temps, on fait des grandes proclamations, mais pour vous, la réalité aujourd'hui, mais elle est quoi? On va dans le mur? Quelle est la solution? Est-ce qu'il y a une solution, docteur?
Alors oui, il y a deux solutions, mais il faudrait un peu de courage politique. Il y a trois choses à faire, mais il faut un peu de courage politique.
Eh oui,
la première, quand les migrants arrivent des Comores, ils ne sont pas renvoyés directement aux Comores. Ils sont amenés à Mayotte et puis ils sont triés. Et il y en a environ 40% qui restent, les malades, mais il y a beaucoup de soi-disant malades, hein, qui arrivent avec des plâtres, des sondes urinaires et qui en réalité ne sont pas malades.
Ah oui. Fausses plâtres, des fausses sondes, vous voulez dire, enfin des faux malades, oui.
Mmh. Oui, des faux malades, puis les mineurs. Donc autrement dit, il y en a à peu près 40% qui restent. Donc la première chose qu'il faudrait faire, c'est renvoyer tout le monde sans les trier. La deuxième chose qui est complètement aberrante, c'est la gendarmerie et la police des frontières n'a pas le droit d'entrer dans ce qu'on appelle les bangas, si vous voulez, les bidonvilles, parce que la loi française l'interdit, c'est soi-disant le respect de la vie privée. Donc on sait très bien sont ces illégaux,
attendez, mais on ne peut pas aller les chercher. Mais attendez, c'est hallucinant ce que vous dites. C'est-à-dire, la loi n'a pas, la police n'a pas le droit, la gendarmerie, d'entrer dans certaines zones par prétexte de vie privée. Mais qu'est-ce que ça a à voir?
C'est la France d'aujourd'hui, c'est l'Europe d'aujourd'hui, Monsieur Mercoff. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des contrôles routiers. Bon, à peu près tout le monde sait où les contrôles routiers vont se dérouler. Oui. Donc, la seule chance d'attraper un illégal, c'est qu'il se fasse attraper un contrôle routier. Mais on sait où ils sont. Ils sont dans les bangas. On pourrait aller les chercher. Ça, c'est la deuxième mesure.
Ouais.
Et la troisième, dont on ne parle jamais, c'est lutter contre tous les bébés papiers, les mariages illégaux, la polygamie, qui sont extrêmement répandus. Pour 200 ou 300 euros, vous vous achetez un père de papier à Mayotte. Donc, vous allez trouver quelqu'un et même si vous êtes le père biologique, eh bien, vous prenez un père maoré, donc français, qui déclare qu'il est le père de l'enfant. Et comme on est dans un pays musulman, il y a une polygamie extrêmement répandue, donc on pourrait également demander aux cadis musulmans qui font les mariages de signaler les cas de polygamie. Et de ce point de vue, du point de vue des mariages illégaux, des bébés papiers, etc., rien, absolument rien n'est fait.
C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on peut s'acheter donc et devenir le fils, pour devenir français, le fils ou la fille, et on s'achète pour 300 euros, quoi, pratiquement la nationalité française et les avantages y afférents. C'est quand même c'est hallucinant. Enfin, c'est terrifiant quand on parle de ça, parce qu'on se dit oui, c'est loin, mais en fait, ce n'est pas loin. Et pour vous, vous rentrez de là-bas, docteur, pessimiste, ou encore on peut s'en sortir, parce que vous dites le courage politique, mais vous savez que le courage politique ou autre est la chose du monde la moins partagée, hein.
Effectivement, non. Écoutez, moi je suis extrêmement pessimiste parce que, vous savez, je suis toujours en contact avec mes collègues médecins et d'autres personnes sur l'île. En fait, le flux migratoire continue. Il y a même des immigrés des Comores qui ont profité de la crise pour venir à Mayotte à ce moment-là en se disant qu'il y aurait beaucoup moins de contrôle. La seule chose qui a été reconstruite immédiatement à Mayotte, ce sont les bangas, donc les bidonvilles. Donc, je crois que le problème, c'est que Monsieur Macron est comme toujours dans les effets d'annonce. Là, j'ai vu qu'il avait annoncé un mur de fer contre l'immigration.
Oui.
Mais bon, c'est comme toujours, on est dans les slogans, si vous voulez. Ouais. Les mesures que je vous ai indiquées, qui sont des mesures assez simples à prendre, hein, autoriser les gendarmes à aller dans les bangas, retourner directement les bateaux, c'est pas très compliqué, mais non. Il faudrait le faire.
Voilà, il faudrait qu'il y ait ce qu'il faut, où il faut, mais ça, c'est encore un vœu pieux. Merci docteur, je rappelle vraiment, lisez ce livre, Mayotte, comment l'immigration détruit une société, d'Alain des textes, c'est aux éditions Texqui, et voilà, vous êtes un lanceur d'alerte, et ils en font en ce moment. Merci.
Merci monsieur Berkoff, au revoir.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, le fait du jour.
Cari, fratelli e sorelle, buona Pasqua!
bonne Pâque. Oui, ce sont les dernières paroles du pape François en public. Fratelli, sorelli, buona Pasqua. Il s'est éteint, donc, on l'a dit, à l'âge de 88 ans. Et ça a été un pape qui a effectivement changé des choses. Il s'est inscrit en rupture, hein, 12 années de pontificat. Il s'est inscrit en rupture de ses prédécesseurs Benoît XVI et Jean-Paul II. François, premier jésuite et premier religieux sud-américain à occuper cette fonction, hein, il faut le dire, depuis des siècles et des siècles, c'était des Européens. Pour une fois et pour la première fois, il s'agissait d'un cardinal argentin. Et c'était pas évident, des quartiers populaires de Buenos Aires au palais du Vatican. Et il disait, d'ailleurs, le pape François, au soir du 13 mars 2013, il semble que les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde. Alors, effectivement, on peut faire déjà un bilan. Stanislas Berton, bonjour.
Bonjour André.
Vous êtes entrepreneur, vous êtes auteur de plusieurs livres, on vous a reçu avec plaisir. L'homme et la cité, vous en êtes au quatrième volume, je sais qu'il y en aura d'autres, aux éditions Le Temps Retrouvé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du pape François, de ce bilan, d'un premier bilan, 12 ans quand même, 12 ans de pontificat, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui ?
Oui, déjà, on peut dire que le Christ est ressuscité, le pape est décédé. Donc, pour un week-end de Pâques, c'est déjà beaucoup. Et ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un pape qui a quand même profondément transformé l'Église, qui a changé beaucoup de choses et qui a notamment, et ça, on aura l'occasion d'en reparler, notamment nommé beaucoup de gens, que ça soit, il a quand même créé plus de 150 cardinaux durant son pontificat. Il a placé beaucoup de gens qui sont proches de lui et qui sont sur sa ligne théologique à des postes clés. Et surtout, il s'est dressé contre certaines choses. Je pense notamment en 2021 avec son motu proprio custionis traditionis qui faisait des restrictions sur l'utilisation de la messe en latin. Ça a été très très fort. Et puis il a quand même fait beaucoup d'ouvertures sur certains sujets. On peut penser à la bénédiction des couples du même sexe. On peut penser à des ouvertures sur changer l'enseignement de l'Église sur un certain nombre de sujets, par exemple dans Amoris Laetitia, une de ses exhortations apostoliques, ouvrir la communion aux gens divorcés, remariés. Donc ça, c'est la partie, on va dire, la plus contestée, notamment par les catholiques les plus traditionnels. Et puis il y a aussi un activisme sur le plan politique. Beaucoup, je pense, se souviennent de ses sorties au moment du Covid sur les vaccins, où il avait déclaré que la vaccination était un acte d'amour. Et puis il a toujours eu des positions, par exemple, pro-migrants, qui lui ont été beaucoup reprochés également. Donc c'était un pape qui était assez progressiste sur le plan doctrinal et quand même assez aligné sur le mondialisme, sur le plan politique.
Alors justement,
mais comme vous l'avez souligné quand même en début de votre émission, c'est quand même sous son pontificat qu'on assiste à un renouveau de la foi dans le monde et notamment en France. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut potentiellement mettre à son crédit.
On va en parler, Stanislas Berton. Justement, je dirais Saint-Alain pour souligner ce que vous venez de dire. Pour Pâques, 10 384 adultes se sont fait baptiser en France, dont 42% de jeunes âgés de 18 à 25 ans, selon une enquête de la Conférence des évêques de France. Des chiffres en forte hausse, 45% par rapport à l'année précédente. 10 384, c'est pas énorme, mais ce n'est pas rien. Et juste aussi, je rappellerai, parmi les 135 cardinaux électeurs, 108 ont été nommés par le pape François, soit plus de 79% du collège cardinaliste. Marie Pinsard, bonjour. Oui. Alors, vous êtes enseignante, vous êtes historienne, vous avez écrit justement notamment l'histoire des chrétiens en France. Ce pape, effectivement, ça pose le problème, et Stanislas Berton le posait, entre effectivement le pape, le pasteur, le pasteur des brebis, de la religion, et puis le pape politique. Est-ce que ça a été toujours quelque chose ça a toujours existé?
Oui, il y a une dimension politique dans la vision pastorale. Le chrétien, il n'est pas voué à être en dehors du monde. C'est quelqu'un qui est totalement inséré dans la cité et dès l'Antiquité, dans les actes des apôtres qui sont, avec la Pentecôte, le socle juridique du christianisme. Eh bien, il est bien marqué qu'il faut être de bons citoyens. Donc la cité a une place prépondérante. Le chrétien doit être un bon citoyen, il doit être patriote. Donc ce qui inscrit effectivement François comme un pape qui peut-être a été au-delà de son rôle politique, c'est-à-dire que c'est un pape qui a oublié, semble-t-il, l'universalisme de l'Église pour lui préférer le mondialisme, donc quelque chose de plus éphémère.
Ah oui, vous faites une différence intéressante, ça, entre mondialisme et universalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'universalisme, c'est la vocation de l'Église, notamment être universelle. Le mondialisme, c'est pas ça.
Bah, le mondialisme, c'est pas ça. Le mondialisme, déjà, c'est une vision de l'instant. C'est une vision qui s'accompagne aussi d'un certain mercantilisme qui s'inscrit dans des échanges, qui s'inscrit dans une vision très capitaliste du monde aussi. Alors, évidemment, on va dire que c'est un pape de gauche. Donc, ça peut paraître paradoxal d'être à la fois un pape de gauche, entre guillemets, et mondialiste. Mais pourtant, il l'est parce qu'il cède à l'ère du temps et aux nouvelles religions que sont, par exemple, l'écologie. Hein, il en a même fait une encyclique, hein, Laudate Si, qu'il a réitéré plus tard, dans laquelle, effectivement, il y a une urgence climatique, dans laquelle il invite également à s'interroger sur l'utilisation des énergies fossiles. Mmh. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'un pape ne peut pas le faire, mais il s'inscrit vraiment dans l'air du temps.
C'est ça.
Il peut en parler. Mais de là à l'amener comme une doctrine ou un dogme, c'est différent. Et c'est là que l'universalisme et le mondialisme vont peut-être se séparer. D'autant plus qu'il a introduit en plus d'autres péchés. On avait déjà les péchés capitaux. Je pense qu'avec ça, on est déjà bien blindé. Hein. On a aussi un libre arbitre vis-à-vis de ça.
Et qu'est-ce qu'il a introduit comme autre péché?
Ah bah vous avez le péché contre les migrants, le péché contre les indigènes. Le péché, je ne sais plus si c'est dit comme ça exactement, mais enfin, en gros, contre le climat, c'est-à-dire contre l'écologie. Alors que...
Bon, le wokisme, non, il n'a pas parlé du wokisme.
Il n'en a pas parlé, mais vous savez, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on ne le fait pas. Hein, il y a plein de choses dont on ne dit pas le nom et qu'on le fait d'autant plus secrètement. Donc je pense que c'est un pape qui, contrairement à cette image qu'on a du pape qui a pris effectivement le nom de Saint François, le pauvre d'entre les plus pauvres, celui qui est le saint de la nature d'ailleurs, c'est pas un hasard, hein, l'écologie, la nature. Eh bien, ce pape, il s'avère tout de même être, me semble-t-il, très mondain.
Mondain, vous n'y allez pas de main morte. Stanislas Berton, est-ce que vous êtes en partie ou pas d'accord avec ce que vient de dire Marie Pinsard?
Oui, alors je la rejoins quand elle dit qu'il est, il est surtout souvent sorti de son rôle et de sa vocation pastorale sur certains sujets. Et je voudrais préciser pour nos auditeurs, parce qu'on parle souvent de l'infaillibilité papale. Et en fait, il faut bien comprendre que quand le pape s'exprime sur certains sujets, notamment les sujets politiques, en fait, son avis n'engage que lui. Le pape a une infaillibilité qui est déjà réduite à des conditions très précises. Il faut qu'il parle ex cathedra. Il faut qu'il s'exprime sur les dogmes et ce qui conduit au salut. Il faut savoir que depuis que ce dogme a été institué, depuis 1870, il y a un seul pape qui était Pie XII, qui a parlé en situation officielle d'infaillibilité papale. Donc quand le pape François parle des vaccins, des migrants, de l'écologie, et qu'il invente même des péchés, ça n'a aucune valeur, je dirais, sur le plan doctrinal. Ça ne change pas l'enseignement millénaire de l'Église. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui en tant que personne privée, et ça n'engage pas le magistère de l'Église. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et il faut préciser aussi que si le pape peut être infaillible, ça ne l'exempte pas du péché et ça ne l'exempte pas des fautes, et notamment des fautes morales. Donc il faut bien dissocier la personne privée du pape qui s'exprime de façon privée et le chef de l'Église, le successeur des apôtres, qui s'exprime sur des vérités de la foi. Il faut vraiment faire la différence, et c'est quelque chose, aujourd'hui, on a tendance à faire l'amalgame, et notre époque aide à ça puisqu'on met tout dans le même sac et on ne fait plus ces nuances qui sont importantes entre la personne et sa fonction.
Oui, Marie Pinsard. Oui.
Alors, sur l'infaillibilité du pape, hein, elle n'est plus d'actualité. Et on sait que, effectivement, ce qu'il y a d'important dans l'Église, et ce depuis des siècles, c'est que le pape est le premier d'entre ses pères. Hein, c'est le premier des évêques, effectivement. C'est d'abord l'évêque de Rome.
Oui.
Exactement. C'est l'évêque de Rome. avant tout, et ensuite sa primauté vient de cette place à Rome, mais les décisions de l'Église, évidemment, l'Église ce n'est pas une dictature avec un méga chef qui serait le pape. L'Église, ça veut dire l'ensemble des croyants. Donc c'est le dogme de l'Église, ce n'est pas le dogme du pape, et vous avez raison de le rappeler, c'est le dogme qui est pris notamment par les conciles, donc c'est une assemblée conciliaire qui représente les évêques de toutes les régions du monde, ou en tout cas d'une grande partie, qui décide de ce dogme, et le pape en est dépendant.
Alors, est-ce que, Stanislas Berton, est-ce que, effectivement, il y a eu incontestablement, évidemment, il y a, et vous avez raison de reparler d'infaillibilité, on voit bien, rendons l'infaillibilité à où elle doit être, oui, et pas où elle, et pas où elle ne l'est pas, effectivement. Est-ce que aujourd'hui, et qu'est-ce qui induit, alors, cette espèce de renouveau, on a parlé des baptêmes, on sent quelque chose qui bouge dans les églises et ailleurs, on va le voir bientôt, je pense, avec le pèlerinage de Chartres en moment de la Pentecôte en juin prochain. Est-ce que quelque chose bouge vraiment? Parce qu'en même temps, il y a une sacrée déchristianisation, mais ça, c'est pas nouveau. Et qu'est-ce qui fait que ça bouge ainsi?
Oui, alors bon, je vais répondre sur ça avant de laisser la parole à madame. C'est que en fait, je pense qu'il y a de plus en plus autour de nous le mal qui est présent, et je pense que ça fait beaucoup réfléchir les gens. On est quand même dans une société qui est dans la culture de la mort. On voit la mort avec l'avortement, avec l'euthanasie, avec la destruction en fait de nos sociétés, et donc ça, notamment chez les jeunes, ça appelle une réaction. Et je pense aussi il y a autre chose, c'est une religion concurrente qui se développe en France, qui est l'islam, qui a un rapport à la religion qui est beaucoup moins décomplexé, qui est beaucoup plus assumé, beaucoup plus public, qui n'a pas cette notion de laïcité qu'on a fait rentrer un peu dans la tête des chrétiens en leur disant votre religion c'est uniquement le dimanche et après vous remettez ça au placard le reste du temps. Et en fait, donc ça fait quand même, c'est un climat global qui, à mon avis, pousse notamment les jeunes à se dire on a besoin de quelque chose, à la fois peut-être sur un plan plus identitaire, mais aussi sur le plan spirituel, parce qu'on sent bien qu'il y a des forces du mal qui sont à l'œuvre dans notre société, et il faut quelque chose pour contrer ça, à la fois pour soi et pour la société dans laquelle on vit.
Alors, on va voir Stanislas Berton, je pense, Marie Pinsard, juste avant. Puis, il suppose que vous ne serez peut-être pas d'accord en disant que la culture de la mort, c'est l'avortement, etc. Là, il y a peut-être des choses à dire. C'est la conviction de Stanislas Berton, mais c'est pas la conviction de beaucoup de chrétiens, je ne sais pas. Dites-moi.
Alors.
André, excusez-moi, sur ce plan-là, l'Église a toujours condamné l'avortement, et ça, c'est.
Oui, c'est, ça, c'est vrai. C'est vrai.
Compris le pape François,
Le pape François d'ailleurs.
Il l'a rappelé, oui, oui. Alors, au-delà de la question de l'avortement en elle-même, je pense c'est le climat général qui est mortifère. Effectivement, l'avortement en fait partie, sans contester forcément la loi première sur la dépénalisation de l'avortement, qui n'est pas une autorisation en fait d'avortement. Faut faire une petite nuance tout de même. Là, on tend à l'étendre, avec une forme d'ailleurs d'eugénisme. De même, et vous avez raison de le souligner, il y a la question de l'euthanasie qui est très présente, qui semble être maintenant quelque chose de normal, de normalisé. On choisit sa mort, on veut mourir dans ce qu'on appelle la dignité. Alors je ne sais pas ce que c'est mourir dans la dignité. Je préfère qu'on vive dans la dignité plutôt qu'on meure dans la dignité. Ce serait déjà peut-être plus intéressant.
Vaste programme, choisir sa vie, choisir sa mort, mais au fond,
Il y a plein de choses qu'on ne choisit pas. Même si l'homme a son libre arbitre, il faut partir du principe qu'il a une liberté qui lui est donnée au départ, qui est limitée. Mais avec ces limites-là, c'est à lui aussi de prévoir sa vie. Et bien sûr, il y a des tas d'accidents de vie. Là, je ne remets pas en cause les détresses qui poussent à vouloir l'euthanasie ou à vouloir l'avortement ou à vouloir se suicider, qui sont des cas particuliers. Mais le particulier et le général, justement, ce sont, je ne dirais pas deux choses différentes. L'un doit se nourrir de l'autre. Mais le climat général est effectivement mortifère, et on l'a vu de façon beaucoup plus accrue lors de la crise du Covid, où, sans complexe, on a annoncé tous les jours cette espèce de comptabilité mortuaire sous fond de scènes dramatiques où on a énuméré le nombre de morts qu'il y avait tous les jours. Alors, on a appris que l'homme était mortel, c'est quand même une bonne nouvelle. Il était temps dans les années 2020, on apprenne que l'homme meurt un jour. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai que c'est une avancée scientifique majeure. Oui, l'homme est mortel. Mais face à ces questions de mort, je crois qu'effectivement, il y a un réveil en se disant, mais alors quel sens, et on retrouve toute l'absurdité qu'on trouve chez Camus ou chez d'autres, mais quel sens à ma vie, puisque à la fin...
Vaste question, on va en parler juste après cette petite pause, et Stanislas Berton, je veux dire justement, où va-t-on Covadis, justement, en fonction de ce qui peut se passer au Vatican et ailleurs. Restez avec nous, c'est passionnant, à tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h, André Berkov.
Stanislas Berton, donc on parle avec Marie Passard et vous-même justement de la mort du pape, du pape François, de celui. Enfin, on va pas lire dans le marc de café et qui va lui succéder. Mais la question que je voudrais vous poser est-ce que en fait. Vous pensez que le pape François aura été une rupture, enfin une certaine rupture dans l'histoire de la papauté. Je parle de l'histoire contemporaine, on ne va pas remonter évidemment à plusieurs siècles. Et où c'est une parenthèse, c'est une rupture, ou au contraire, ce qui se passe autour, on en a un peu parlé, ça peut être un renouveau. À votre avis.
Alors vous savez, il faut revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire que le pape François, pour moi, il s'inscrit dans un processus qui est un processus d'infiltration de l'Église. C'est-à-dire que, comme toutes les institutions aujourd'hui, que ça soit l'État, l'université, le monde des médias, l'Église a été infiltrée par ce qu'on appelle le mondialisme. Mmh. Voilà. Et à mon sens, c'est l'analyse que je fais, à partir de ces actes, le pape François semblait continuer cette avancée-là. Je vais prendre juste deux exemples. Le mondialisme, c'est quoi? C'est la volonté de gouvernance mondiale et donc de détruire les nations historiques. Bah, le pape François plaidait justement, il a dénoncé le repli sur soi, il a fait encourager les phénomènes migratoires, donc la dissolution des nations. C'est aussi la volonté d'arriver à une religion mondiale, donc en fait c'est effacer toutes les différences entre les nations avec un espèce d'œcuménisme et de dire qu'en fait tous les chemins en fait conduisent vers Dieu. Et donc le pape François, sans jamais franchir non plus de ligne rouge qui aurait fait vraiment de lui un hérétique sur ce point, il a flirté avec certaines choses, donc on voit un peu cette espèce d'œcuménisme. Donc pour moi, il était en fait dans la continuité avec une accélération, mais qu'on retrouve même au niveau politique. Par exemple, je fais un parallèle qui n'est pas tout à fait correct, mais avec Emmanuel Macron, qui continue l'œuvre de destruction de la France, mais qui l'accélère durant les années de son mandat. Donc vous voyez, pour moi, c'est cette logique-là, et là, ce qu'on peut espérer pour l'avenir, c'est est-ce que l'Église va continuer dans cette logique-là, ou au contraire, il va y avoir là, pour le coup, une rupture, et on va arrêter avec cette avancée de l'agenda mondialisme, en fait, qui consiste toujours par la stratégie des petits pas à infiltrer les institutions, à les vider de l'intérieur de leur substance pour en faire, en fait, transformer l'Église, en fait, en une espèce d'ONG parmi d'autres ONG. Et donc ça, c'est la question qui se pose, et on verra avec le pape, mais aussi les changements en interne, parce qu'on se concentre beaucoup, et Madame l'avait dit très justement, il y a une espèce de papolatrie, où en fait, on se concentre toujours sur la figure du pape qui est très médiatique, mais en fait l'Église c'est une institution avec énormément de rouages, le pape ne peut pas tout, ne fait pas tout, et il y a beaucoup de gens très influents en interne, et donc il faut voir aussi si des changements se produisent sur ces postes-là.
Eh bien, qui vivra verra. Marie Passard, pape parenthèse ou effectivement rupture possible?
Alors, je rejoins... interlocuteur, effectivement, ça fait partie d'un processus mondialiste qu'on voit à l'œuvre. Alors bon, je ne veux pas parler de complot, etc., mais c'est vrai qu'il y a quand même... c'est un peu le pape du « en même temps hein. ». Vous évoquez Macron, mais c'est vrai que d'un côté, on bénit les couples homosexuels, et puis on parle de psychiatrie quand même, pour soigner les homosexuels. En même temps, chez le pape François... Bon, c'est le Emmanuel Macron à calotte, quoi, voilà, en quelque sorte.
Ouais, écoutez, si tu me guides, on verra si elle restera ou pas.
Qui, je crois, d'ailleurs, élevé chez les jésuites. Hein, mais bon, bah, je vais pas jeter l'anathème sur cette très éminente institution.
Ne jetez pas le bébé jésuite avec l'eau du bain, c'est
non,
ça
Non.
Mais juste pour vous, vous espérez en fait que... comme un peu comme Stanislas Berton, que quand même l'église reste l'église, ou alors ramener l'église au milieu du village, si on veut parler.
Ramener l'église au milieu du village, c'est véritablement ce qui est en train, je pense, de se passer de, comme une lame de fond. Moi, je vois pour l'heure, mais effectivement, je ne suis pas médium, hein, je ne suis pas devin, donc je vois pour l'heure, en tout cas, François et sans doute son successeur, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, comme des parenthèses. Parce que l'Église, si on regarde alors de façon millénaire son histoire hein, de 2000 ans, elle a toujours su se renouveler à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment des abus, des excès, beaucoup de temporalité justement, ce côté mondain. Et puis à un moment, il y a des gens qui ont dit stop. Attendez, là, il faut faire un concile, ça va plus du tout. Et on retourne aux sources et on regarde ce qui s'est fait depuis 2000 ans et on le reproduit pas. Pour le reproduire tel quel, hein. L'Église de 2025 n'est pas évidemment, elle est fidèle à celle.
Pas l'Église de Grégoire, oui.
Ah, Grégoire, elle est un peu l'Église de Grégoire Ier, hein, qui est un pape que j'affectionne particulièrement, qui est le pape de la modernité au VIe siècle. Mais je pense que derrière cette Église, il y a une lame, qui est parfois une coquille vide, il y a une lame de fond. Et je pense que ça viendra. Ça viendra, comme ça l'a souvent été, ça viendra peut-être pas forcément des papes, mais ça viendra d'une lame de fond, de l'ensemble des fidèles, puisque l'Église c'est aussi ça, qui apporteront ce renouveau peut-être nécessaire.
Stanislas Berton, un dernier mot, vous espérez aussi que ça peut passer par une lame de fond ou, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de, non pas de ce pape, mais de ce changement forcément induit par la nature, par la mort et par la vie.
Moi, ce que je souhaite, c'est que l'Église